Donc, les deux textes liturgiques pour ce troisième dimanche après l'Épiphanie. L'Épître est tirée de l'Épître aux Romains de saint Paul. Mes frères, soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, ayez soin de faire le bien, mais seulement devant Dieu. Non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, s'il a soif, donnez-lui à boire, car en agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez point vaincre par le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Voici qu'un lépreux vint à lui, et l'adorant lui dit, « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant, « Si vous le voulez, soyez purifié. Je le veux, soyez purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit, « Gardez-vous d'en parler à personne, mais allez, montrez-vous au prêtre et offrez le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Lorsque Jésus fut entré dans le Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, le priant, et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, atteint de paralysie, il souffre extrêmement. » Jésus lui dit, « J'irai, et je le guérirai. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, « Allez, et il va, et à l'autre, venez, et il vient. » Et à mon serviteur, « Faites cela, il le fait. » Et en entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi, je vous le dis que beaucoup viendront de l'Orient, de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors Jésus dit au centurion, allez, et qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru. Le serviteur fut guéri à l'heure même. Veuillez vous asseoir. Attention pour les retraites. Donc la première retraite est maintenant pleine de nouveau. Retraite de Pâques. Je ne peux plus accepter de personne. Par contre, il y a encore des places pour toutes les autres retraites. Vous avez les papiers à l'entrée de la chapelle. 25 avril au 30 avril, 16 mai au 21 mai, 6 juin au 11 juin, 12 septembre au 17 septembre. Je prêche dans un gîte que je loue à un quart d'heure d'ici. Attention pour ceux qui viennent à la messe en semaine. Donc, messe évidemment tous les jours à 10 heures, sauf vendredi. Vendredi, la messe sera à 17 heures le soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Une petite note liturgique avant de commencer ce sermon. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Émérencienne. Très important de bien connaître son histoire, parce que Sainte Émérencienne est l'exemple typique qu'on peut utiliser contre une secte qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts, surtout dans un pays de langue anglaise, qui s'appelle la secte des Finéistes. Finéistes suivent un prêtre qui s'appelle Père Finet, un Américain, qui a été excommunié par le pape Pie XII en 1953 parce qu'il niait le baptême de sang, le baptême de désir. Et on peut utiliser l'exemple de Sainte Émérencienne. Sainte Émérencienne était la sœur de lait de Sainte Agnès, au premier siècle de l'Église. Elle était catéchumène, donc pas encore baptisée. Elle a été martyrisée sur la tombe de Sainte Agnès. Donc elle est morte avec un baptême de désir et un baptême de sang. Donc, si on utilise cet exemple, il faut bien rappeler que le baptême de sang, le baptême de désir ont toujours été prêchés par l'Église. Dans toutes lettres, dans le Concile de Trente et dans le catéchisme de Saint-Pélice et dans tous les catéchismes catholiques, dans l'enseignement catholique. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ va faire deux grands miracles. D'abord, un lépreux qui va guérir. Et ensuite, il va aussi guérir le serviteur d'un centurion. Essayons un petit peu de voir avec les pères de l'Église comment interpréter ces deux miracles. Je vous l'ai déjà souvent dit, notre Seigneur Jésus-Christ toujours utilise la lèpre, qui était certainement la maladie dans les Juifs de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ avait le plus peur, parce que c'était extrêmement contaminant, en plus c'était mortel. Et l'Église a toujours interprété la lèpre comme étant le symbole du péché grave. Et donc le lépreux comme le symbole de celui qui est tombé dans le péché. Et la première chose qu'il nous faut comprendre avec cet évangile, c'est que le péché mortel est le seul mal véritable. Les autres mots sont des mots relatifs. Le péché est un mal absolu. Être malade, par exemple. En soi, d'être malade, c'est un mal. Mais c'est un mal relatif. Dieu peut très bien utiliser une maladie pour ramener quelqu'un vers lui, par exemple. Ça arrive très souvent. Vous faites cambrioler, c'est un mal. Cependant, c'est un mal relatif, c'est pas un mal absolu. Le mal absolu, c'est le péché. Et donc, il faut commencer par se mettre ça dans la tête. Parce que, encore une fois, je vous l'ai souvent dit, je m'excuse de me répéter, mais c'est tellement important de ne pas se laisser contaminer par les idées générales. Beaucoup de gens nous disent, oui, c'est vrai, le péché, c'est grave, mais enfin, Dieu est bon et pardonne. C'est vrai, le péché, c'est grave, mais tout le monde le fait. C'est pas si grave que ça, puisque tout le monde le fait. Il faut comprendre notre Seigneur Jésus-Christ simplement pour effacer un péché mortel. Offert non pas une goutte de son sang, mais tout son sang sur la croix le vendredi saint. Et voilà la chose qu'il faut comprendre. Le péché, c'est l'unique vrai mal. Alors, essayons de décortiquer un petit peu ces choses-là. Pourquoi est-ce que Notre Seigneur et l'Église et les pères de l'Église associent toujours, comparent toujours le péché mortel à la lèpre. Parce que la lèpre entraînait trois choses chez ceux qui étaient atteints de cette terrible maladie. D'abord, une laideur corporelle. Parce que la lèpre est une maladie épouvantable qui grignote, qui corrode littéralement les chairs. Quelqu'un qui était atteint de lèpre voyait ses muscles et même ses os grignotés littéralement par le virus de la lèpre. Donc ça entraînait une laideur épouvantable de l'individu qui commençait à avoir des bouts de muscles qui manquaient, c'était épouvantable. Deuxième conséquence de la lèpre, c'est que la lèpre affaiblissait considérablement l'organisme et entraînait la mort. Et les pères expliquent justement que le péché mortel entraîne les mêmes choses sur le plan spirituel. Le péché mortel d'abord entraîne une grande laideur de l'âme. L'âme qui est toute rayonnante en état de grâce, lorsqu'elle tombe dans le péché mortel, devient laide. Et Dieu littéralement détourne son regard à cause de la laideur du péché. Ensuite, le péché mortel entraîne un affaiblissement général de la vie spirituelle. En quelque sorte, tout le système de protection de la vie spirituelle risque de sauter. Et ça entraîne la mort spirituelle. Alors, si on va encore un peu plus loin, je pense que pour bien comprendre le péché mortel, c'est qu'il y a trois conditions pour le péché mortel, je n'ai pas tant tout réexpliquer, il faut la matière grave, le consentement et la connaissance. Ça veut dire quoi? L'action que je veux commettre est grave, c'est important, ce n'est pas un petit détail. Je sais que c'est interdit par la loi du bon Dieu sous peine de péché grave, ça faillant, je le fais quand même. Et pour expliquer, on peut utiliser la magnifique définition de saint Thomas d'Aquin. C'est que saint Thomas d'Aquin, 13e siècle, le plus grand des théologiens de l'Église catholique. C'est le roi des théologiens. À tel point que l'Église enseigne, l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, c'est l'enseignement de l'Église. Et saint Thomas donne une définition. Il avait un génie pour la synthèse. Il arrive en quelques mots à synthétiser des pages et des pages de catéchisme. Quand il veut définir ce qu'est le péché mortel, qu'est-ce qu'il dit ? Aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. Aversio, le mot aversion vient de là. Avertire, ça veut dire se détourner de quelque chose. Donc on prend le bon Dieu qui est dans notre âme et on dit au bon Dieu, écoutez, vous me gênez, partez. Quittez mon âme. Première action. Deuxième action, par la porte que vient d'utiliser notre Seigneur pour quitter mon âme, on fait rentrer quelqu'un qui va prendre la place du bon Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une créature et qu'on met la créature au niveau de Dieu. Donc le péché mortel, c'est d'abord une idolâtrie. L'adoration d'un faux Dieu. C'est pas que ça. On fait rentrer une créature dans une âme qui est sanctifiée par le baptême. Notre âme est le temple du Saint-Esprit. Temple du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Donc le péché mortel entraîne une deuxième catastrophe. Ce n'est pas simplement un acte d'idolâtrie, c'est aussi un sacrilège. Un sacrilège parce qu'on fait rentrer une créature qui vient prendre la place du bon Dieu. Imaginez, vous avez une pomme toute pourrie. Vous l'avez oubliée dans un placard, elle est toute pourrie, il y a les vers qui sortent de partout, ça sent mauvais, elle est toute noire. Et vous placez cette pomme au milieu de la salle à manger, sur la table. C'est déjà pas très amusant, c'est laid comme tout. Imaginez au contraire que vous prenez cette pomme, vous la mettiez sur l'autel. C'est bien plus grave. Imaginez que vous prenez cette pomme pourrie et vous la mettez dans le tabernacle. C'est encore plus grave. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec le péché mortel. On prend une pomme complètement pourrie et on la place dans un lieu qui est consacré à Dieu par le baptême. D'où la gravité du péché mortel. On dit, et c'est un peu vrai, que par le péché mortel, on commet trois catastrophes. D'abord, c'est un suicide. J'ai déjà expliqué ça un peu dimanche dernier. C'est un suicide, c'est un meurtre, c'est un vol. C'est un suicide parce qu'on détruit sa propre vie spirituelle. C'est un meurtre parce qu'on tue cette vie spirituelle. Et c'est un vol parce qu'on touche à quelque chose qui ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas propriétaires de notre âme. Nous sommes en charge de l'âme. Comme les parents, ils ne sont pas propriétaires de leurs enfants. C'est Dieu qui est propriétaire des enfants et qui confie les enfants aux parents. Vous voyez comme ces choses sont importantes. Il faut méditer ces choses-là, nous aider à comprendre la gravité du péché. Alors, évidemment, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est tellement contaminé, encore une fois, par les idées modernes. Qu'est-ce que vous voulez? À force de vivre dans une poubelle, comme on dit vulgairement, on finit par sentir mauvais. C'est exactement ce qui se passe. Les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, le péché est partout, on ne peut pas l'éviter. C'est un blasphème de dire ça. Parce que ça voudrait dire que Dieu nous place dans une situation où on ne peut plus rester en état de grâce. Or, Dieu a promis qu'on ne serait jamais tenté une seule fois au-delà de nos forces. Donc, s'il permet certaines tentations, il nous donne toujours la grâce pour nous en sortir. Sauf s'il veut jouer avec le démon. Je vais faire guili-guili sous le menton du démon, ça évidemment, je vais me faire croquer par lui. Et là, j'ai vraiment cherché. Vous voyez ? Donc, il faut bien réaliser ces choses-là. Et on va appliquer ce que je viens de vous expliquer, donc les catéchismes, les pères de l'Église, aux deux miracles d'aujourd'hui. Premier miracle, donc, c'est un lépreux qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va guérir ce lépreux. Et ça montre bien, justement, que la lèpre peut être guérie par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a pouvoir sur le péché. Il a pouvoir sur le péché en appliquant les mérites de sa passion. Le péché est quelque chose de tellement grave que Dieu le Père a dû envoyer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, pour mourir sur la croix afin d'enlever nos péchés. Et lorsqu'on médite sur ces choses-là, on comprend la gravité du péché. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On couvre le péché. Si vous voulez, de peinture dorée, comme on dit un peu vulgairement, on met un peu d'autres colonnes dessus pour que ça ne sente pas si mauvais. Et on entend ça tout le temps. Mais monsieur l'abbé, puisque tout le monde le fait, ce n'est pas si grave. Dieu n'est pas démocrate, mes bien chers amis. Dieu n'est pas démocrate. Le nombre n'a rien à faire là-dedans. Même si vous avez une personne dans le monde entier qui comprend ces choses-là, c'est lui qui a raison contre l'ensemble des gens. Le péché, c'est grave. Et donc, il faut utiliser toutes les choses que nous donne le bon Dieu pour lutter contre le péché. Pourquoi est-il mort sur la croix? Pour effacer le péché. Et la première conséquence de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la messe, c'est la confession, c'est la sainte communion, c'est le sacrement extraordinaire que Dieu nous a donné pour effacer le péché par la confession et pour nous renforcer contre les catastrophes du péché. Après la confession, pour donner cette force de ne pas y retomber, par la sainte communion surtout. Vous voyez, on peut parler de ces choses-là pendant des heures et des heures. Il y a une chose aussi importante dans le texte d'aujourd'hui, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ guérit le lépreux, et après lui dit d'aller voir le prêtre. Pourquoi? Pourtant, c'est les prêtres de l'Ancien Testament. Les prêtres de l'Ancien Testament n'ont aucun pouvoir sur le péché. Le prêtre de l'Ancien Testament n'a pas encore le sacerdoce. Attention, on est avant l'introduction du sacerdoce. Ce Seigneur Jésus-Christ va introduire le sacerdoce le jeudi saint, à la fin de sa vie sur la terre. Donc là, on est avant le sacerdoce. Donc le prêtre de l'Ancien Testament, il organisait les sacrifices, il organisait la vie de prière, il n'avait aucun pouvoir sur le péché. Il ne pouvait pas effacer un seul péché véniel. Et donc pourquoi notre Seigneur dit-il, allez voir le prêtre? C'est qu'il annonce déjà le sacerdoce qui va arriver. Beaucoup de gens nous disent, mais monsieur l'abbé, pourquoi aller voir le prêtre pour ce qu'on fait? Je peux demander pardon directement à notre Seigneur Jésus-Christ, il me pardonne. Attention, ça c'est du protestantisme. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, allez voir le prêtre? Parce qu'il va demander deux choses. Il va demander un acte de foi de la part de ce lépreux. Et il va lui demander aussi un acte, pas simplement un acte de foi, mais un acte d'humilité. Et c'est une erreur qui est très fréquente, même dans les milieux de la tradition, d'oublier que la confession est d'abord un acte qui amène des grâces. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je me confesse, je fais d'abord un acte de foi. Évidemment, il faut faire un acte de foi extraordinaire pour reconnaître que Dieu a donné au prêtre, qui est un homme comme vous et moi, a donné au prêtre le pouvoir de pardonner les péchés. Et on se met à genoux en disant « Pardonnez-moi mon Père parce que j'ai péché. » Acte d'humilité. La confession est donc une humiliation. Dieu aime les humbles et déteste les orgueilleux. Donc dès que quelqu'un est capable de se mettre à genoux, de dire au bon Dieu, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait, et je sais que vous avez donné à ce prêtre le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu pardonne beaucoup plus facilement. L'orgueilleux, au contraire, ne peut pas être pardonné. Ensuite, il y a le deuxième miracle. L'homme du miracle est encore plus grand. Parce que le premier miracle, le lépreux demande quelque chose pour lui. Il est malade et il demande la guérison et il l'obtient. Le deuxième miracle est encore plus grand parce que le centurion, d'abord c'est un païen, centurion romain, un païen, il ne vient pas demander un miracle pour lui, il demande un miracle pour un de ses serviteurs. Et il dit dans l'évangile que c'était un enfant. Et donc il a le courage de venir non pas pour lui, mais pour l'autre, pour son prochain. Et il va répéter, il va dire cette phrase qui a tellement frappé l'Église qu'elle va être reprise 6 fois dans la Sainte Messe. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. 6 fois l'Église la reprend dans la Sainte Messe. 3 fois avant la communion du prêtre, 3 fois avant la communion des fidèles. Pour bien montrer justement l'importance de cette fois-ci, de cet acte de confiance. Le premier miracle, c'est surtout l'humilité. Deuxième miracle, la confiance. L'humilité ne suffit pas. Il faut rajouter à l'humilité la confiance dans le bon Dieu. Donc il fait un acte, ce païen fait un acte de foi, un acte d'humilité, mais aussi un acte de confiance. Seigneur, je sais que vous avez le pouvoir de pardonner les péchés parce que je sais que vous êtes Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ va tout de suite pardonner à cette personne, mais à cause de cet acte de confiance, va guérir immédiatement le serviteur. À cette heure-là, dit l'évangile, le serviteur fut guéri. Et un autre point qui me semble extrêmement important, c'est de voir que représente ce centurion. Centurion ne demande pas une grâce pour lui, il demande une grâce pour quelqu'un de sa maison, un de ses enfants. L'évangile utilise le terme « puer », enfant. Qui est représenté derrière? Qui est celui qui vient à notre Seigneur Jésus-Christ, non pas pour lui, mais pour demander les grâces pour ses enfants? C'est la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, elle est comme ça. Elle ne va pas demander des grâces pour elle, elle est déjà pleine de grâces. « Je vous salue Marie, pleine de grâces », a dit l'ange Gabriel. Elle demande des grâces pour ses enfants. Elle vient au pied du trône de notre Seigneur Jésus-Christ en tant que mère, en tant que reine. Elle a un pouvoir extraordinaire sur notre Seigneur Jésus-Christ. On dit que notre Sainte Vierge Marie est la seule créature capable de changer la volonté divine, et c'est sans doute vrai. Elle vient, elle demande des grâces pour ses enfants. Nous sommes les enfants de notre Sainte Vierge Marie par le baptême. N'oubliez pas ce qu'a fait notre Seigneur avant de mourir. Juste avant de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il nous confie à sa mère. Il l'a fait avec Saint Jean. Fils, voici votre mère. Et la Sainte Vierge Marie a dit, mère, voici votre fils. Donc le rôle de la Sainte Vierge Marie, c'est d'amener notre Seigneur Jésus-Christ à l'âme et d'amener l'âme à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes tombés dans le péché, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Si nous avons le malheur de tomber dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adresser à notre Mère du ciel. S'adresser à notre Mère du ciel et tout de suite lui dire, Très Sainte Vierge Marie, j'ai besoin d'aide. Et la Très Sainte Vierge Marie va faire la démarche, va aller à son fils et demander la guérison de son enfant. C'est le rôle de la Très Sainte Vierge Marie. Voilà pourquoi on ne peut pas être sauvé sans elle. C'est absolument impossible parce que justement, à cause de cela, elle est médiatrice de toutes les grâces. Et l'Église va même plus loin parce que non seulement l'Église catholique enseigne la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces, mais elle enseigne qu'elle est co-rédemptrice du genre humain. C'est-à-dire qu'elle participe directement à la rédemption du genre humain. Attention, ça ne veut pas dire que Notre-Dame peut par elle-même pardonner un péché. Notre-Dame n'a aucun pouvoir sur le péché parce qu'elle n'est pas prêtre. Notre Seigneur Jésus-Christ peut pardonner les péchés parce qu'il est grand prêtre, mais pas sa mère. Cependant, le rôle de notre Sainte Vierge Marie, c'est d'aller chercher le pécheur dans sa fange et l'amener à notre Seigneur. Et se mettre à genoux devant notre Seigneur Jésus-Christ pour supplier notre Seigneur Jésus-Christ de pardonner à ce pécheur repentant. C'est le rôle de notre Sainte Vierge Marie. Mais c'est terrible, c'est un des blasphèmes d'aujourd'hui tellement fréquents. Vous savez qu'à Rome, celui qui a autorité dans l'Église de Vatican II a eu le culot de dire que l'Église ne croit pas à la médiation de la Très Sainte Vierge Marie. Il l'a dit expressément. Bergoglio a dit, la Très Sainte Vierge Marie n'est pas médiatrice de toutes les grâces. Contre 20 siècles de tradition, la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toutes les grâces. C'est pour ça qu'elle est là. Alors passons, mes bien chers frères, passons par elle. Et disons bien notre chapelet tous les jours. C'est ça, il est bien heureux Alain de la Roche, qui est un compagnon de Saint Dominique, qui a fait la prophétie que tous ceux qui lisent le chapelet tous les jours seront sauvés. Et je veux bien le croire. Comment voyez-vous, la Très Sainte Vierge Marie abandonne quelqu'un qui a pris le soin tous les jours de dire son chapelet. Et je vous assure que si vous mourrez avec le chapelet dans votre cœur, et bientôt la Sainte Vierge Marie s'occupera de vous. Parce que chaque Je vous salue Marie, c'est un acte de foi, un acte d'humilité et un acte de confiance. On retrouve les trois vertus dont je viens de vous parler. La foi, l'humilité, la confiance. Et si vous rajoutez foi, humilité, confiance, ça mène à la charité. La charité efface tous les péchés. En demandant, mes bien chers frères, à toi, Sainte Vierge Marie, de nous aider à ne pas nous décourager. Nous sommes dans une période de plus en plus difficile. La vie devient de plus en plus difficile pour les catholiques. Mais Toi, Sainte Vierge Marie ne change pas, et son fils non plus. Et l'Église catholique ne change pas non plus, parce qu'elle est divine. Alors, allons nous mettre au pied de la Sainte Vierge. Supplions-la de nous obtenir ces grâces de lumière dont nous avons besoin. Passons par elle pour arriver à la croix. Évidemment, il faut monter au calvaire, hein. Voilà pour toute l'importance de la messe. Toute l'importance de la messe. Pourquoi croyez-vous que tous les hérétiques de tout poil pendant toute l'histoire de l'humanité ont toujours eu comme point comme but détruire la messe, détruire le sacrifice de la messe? C'est pas pour rien. C'est précisément parce que la Sainte Messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire, et c'est donc la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ donne ses grâces par la messe. Supprimer la messe, il n'y a plus de moyen d'atteindre les grâces. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses, à les mettre en pratique, à bien garder cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie, éventuellement aussi de bien garder la confession régulière. Bon, c'est difficile de dire tous les combien il faut se confesser, ça dépend évidemment des personnes, mais essayez de vous confesser au moins une fois par mois. Même dans certains cas, il faut se confesser plus souvent dans les périodes difficiles, les périodes de tentation. Confessez-vous régulièrement pour obtenir justement du bon Dieu ces grâces dont vous avez besoin, ces grâces qui passent par sa mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.